Lecture du livre de la sagesse. Il a été aimé de Dieu et des hommes, sa mémoire est en bénédiction. Le Seigneur lui a donné une gloire égale à celle des saints. Il l'a rendu grand et redoutable à ses ennemis. Il a lui-même apaisé les monstres par ses paroles. Il l'a glorifié en présence des rois. Il lui a donné ses ordonnances devant son peuple et lui a fait voir sa gloire. Il l'a sanctifié dans sa foi et dans sa douceur. Il l'a choisi entre tous les hommes. Il l'a écouté et a entendu sa voix. Et il l'a fait entrer dans la nuée, il lui a donné ses préceptes face à lui et la loi de la vie et de la science. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Comme Marie, la mère de Jésus, était fiancée à Joseph, et qu'il se trouva avant qu'ils habitassent ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Mais Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulant pas la dénoncer, résolut de la renvoyer secrètement. Et comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, disant, Joseph, fils de David, ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes très chers frères, quel est cet homme dont Dieu le Fils a voulu être le Fils? Quel est cet homme auquel Dieu a confié et l'honneur et la garde de la Mère de Dieu? Quel est cet homme qui, jusqu'à sa mort, a gardé le dépôt que Dieu lui a fait de son Fils? Cet homme, mes très chers frères, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, ce saint si important, si grand, tous les saints sont grands, bien sûr, mais Saint Joseph, en quelque sorte, les dépasse tous d'une certaine manière, même si ce n'est pas exclusif de certaines considérations sur Saint Jean-Baptiste, mais Saint Joseph est celui qui a été choisi par Dieu pour être l'époux de la Bienheureuse Vierge Marie et le père adoptif de notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Dieu, dit Bossuet, choisit cet homme comme il a choisi David, le roi David. Il était inconnu, inconnu même de sa propre famille. Vous savez que lorsque Samuel est allé pour oindre le futur roi, Isaïe a fait passer devant lui ses fils aînés, qui étaient des champions, des guerriers, etc. Et le Seigneur a dit à Samuel, ce n'est pas cela. Et Samuel dit, mais n'avez-vous pas un autre fils? Et Isaïe s'est souvenu qu'il avait effectivement un fils qui était un. Pas oublié, mais il s'est souvenu qu'il y avait le petit dernier qui gardait les moutons. Il n'avait pas semblé qu'il était utile de le faire déplacer pour rencontrer le prophète. Pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi. D'où vient Joseph? Nous savons qu'il est un fils de David, mais sinon nous ne savons rien de lui. Nous ne savons absolument rien de lui. Dieu, dit-il lui-même à Samuel, ne juge pas sur les apparences. Ce prince, fils de David, Saint Joseph donc, était un humble artisan, inconnu aux yeux du monde. Dieu trouve en lui un homme selon son cœur. Cet homme que nous honorons aujourd'hui, Dieu le Verbe, l'a appelé son père. Il l'a voulu pour son père. Il l'a façonné pour être son père, comme il a créé, le Verbe éternel de Dieu, comme il a créé la Sainte Vierge pour être sa mère. Si la Sainte Vierge est la mère de Dieu, parce qu'elle a mis au monde l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, Saint Joseph n'est-il pas le père de Dieu? Évidemment, c'est une expression qui sonne un peu étrange, étrangement, parce que nous n'y sommes pas habitués. Mais si, d'après les docteurs, la Sainte Vierge est vraiment la mère de Dieu, car elle n'est pas que la mère de l'homme Jésus, mais du Fils éternel de Dieu. Saint Joseph n'est-il pas le Père de Dieu? Pas de la même manière que la mère et la Vierge est mère de Dieu, c'est vrai. Elle l'est parce qu'elle lui a donné de son propre sang, sa propre chair. Saint Joseph est le Père putatif, mais quel Père? Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un assistant social qui a aidé la Sainte Vierge, c'est celui que la Sainte Vierge a appelé son époux, c'est celui que le Fils éternel de Dieu a appelé papa, mon père. Aussi, mes très chers frères, ce n'est pas pour mettre Saint Joseph au-dessus de la Sainte Vierge, bien entendu, car la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge, bien entendu. Mais nous allons nous concentrer avec l'aide du Saint-Esprit sur Saint Joseph aujourd'hui. Et c'est lui que nous aurons sous nos yeux comme un modèle. Mes très chers frères, nous aurons à examiner trois choses dans Saint Joseph. Saint Joseph, nous aurons à voir ces trois choses. Premièrement, comment Saint Joseph est l'image du Père Céleste. Deuxièmement, comment Saint Joseph est l'image du Père catholique. Et troisièmement, comment il est le modèle du Père catholique. Voilà, il y aurait tant de choses à dire. Nous avons grappillé quelques perles chez les pères, chez les bons auteurs, afin de vous les communiquer de la part de l'Église. Alors, aujourd'hui plus que jamais, prions la très sainte Vierge Marie, dont nous allons maintenant essayer d'honorer en parole et en pensée l'époux. Prions la très sainte Vierge Marie afin qu'elle dispose nos cœurs à être d'autant plus attentifs au Saint-Esprit qu'il s'agit d'honorer celui que le Fils éternel de Dieu lui a donné comme époux sur la terre.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Si votre serviteur était déjà très intimidé à l'idée de dire quelques paroles en l'honneur de Sainte Agnès, qui est une sainte particulièrement chérie de Dieu, que dire lorsqu'il s'agira de parler de Saint Joseph ? Saint Joseph, aidez-nous, assistez-nous. Premièrement, Saint Joseph, image du Père Céleste. Saint Augustin, notre Père, ne craint pas d'affirmer que, de même que Saint Joseph a vraiment été l'époux de Marie, il fut aussi, dans un vrai sens, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car, si vous vous souvenez de ce que dit l'Évangile, c'est la Sainte Vierge elle-même qui l'appelle ainsi. Souvenez-vous, lorsque notre Seigneur parle et enseigne avec les docteurs dans le temple, la Sainte Vierge et son Père et Saint Joseph le retrouvent, et elle dit « Votre Père et moi, vous cherchions angoissés. Votre Père et moi. » Vous voyez cette reconnaissance. Alors évidemment, nous sommes ici dans la Sainte Famille, il ne s'agit pas maintenant de dire que c'est la Mère qui reconnaît le Père, etc., qui la double, etc. Bien sûr que non, nous sommes dans le mystère, nous ne parlerons pas de cet aspect-là des choses, nous parlons de Saint Joseph. La Sainte Vierge, qui est l'Immaculée Conception, dit au Fils qu'elle a mis au monde et qui est le Fils de Dieu, « Votre Père et moi ». C'est pour cela que Saint Augustin dit que, de même que la Sainte Vierge a été, que de même que Saint Joseph a été vraiment l'époux de la très sainte Vierge Marie, puisqu'ils ont été unis par les liens du mariage, de même, Saint Joseph a été vraiment le Père de notre Seigneur. Selon l'Esprit, dit Saint Augustin, bien entendu, personne n'en doute, selon l'Esprit, mais quel Esprit ? Un Esprit qui faisait que le Fils éternel de Dieu lui était soumis. Il fut le Père de notre Seigneur Jésus par l'Esprit, et non selon la chair, que cela soit dit une fois pour toutes. Mais sa paternité vis-à-vis du Christ n'en demeure pas moins véritable. Bossuet dit ceci, « Le Christ, dit saint Paul, est comme Melchisédek, sans père, s'il n'est pas très. Dieu le Père est son Père, nous dit Bossuet, et son Père, en quelque sorte, l'abandonne à la croix. Il dit, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Dès sa naissance, nous dit Bossuet, Dieu, en quelque sorte, l'expose aux persécutions, aux injures. Son Père céleste le fait naître dans une étable. On pourrait penser que Dieu le Père a traité bien rudement son Fils, dès les premiers instants de sa vie terrestre. Eh bien, tout ce qu'il fait, nous dit Bossuet, tout ce qu'il fait en faveur de ce Fils unique, Dieu donc, tout ce qu'il fait en faveur de ce Fils unique, pour montrer qu'il ne l'oublie pas, du moins ce qui paraît à nos yeux, c'est de le mettre en la garde d'un homme mortel qui conduira sa pénible enfance, et Joseph est choisi pour ce ministère. Évidemment, il s'agit là d'un tout petit peu de rhétorique. Dieu le Père est uni à son Fils, et le Fils est descendu du ciel, lui qui est dans le ciel, dira-t-il dans l'Évangile. Nous ne sommes pas ici en train de faire de la théologie trinitaire. Nous sommes en train de voir notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu, dans son abaissement. Dieu le Père, son vrai Père, son Père au sens absolu du terme, en quelque sorte l'abandonne sur la terre, entre guillemets bien sûr. Il l'abandonne sur la terre, mais, nous dit Bossuet, il ne l'abandonne pas tout à fait. Que fait-il? Il se fait remplacer par un homme mortel, évidemment, c'est un pléonasme, et cet homme, c'est Joseph, Saint Joseph. Saint Joseph, c'est donc plus que quelqu'un qui a eu à voir avec l'aventure de l'incarnation, si j'ose m'exprimer en des termes un peu légers. Saint Joseph, c'est le vicaire de Dieu le Père auprès de Dieu le Fils incarné. Voilà la dignité de Saint Joseph. Saint Joseph, ce n'est pas quelqu'un auquel Dieu a donné une mission, ce qui serait déjà beaucoup merveilleux. Et normalement, Dieu fait comme cela. Saint Joseph, c'est le Père céleste, en quelque sorte présentifié ici-bas. Je ne fais d'ailleurs ce que je ne dis pas que c'est une incarnation du Père, ce qui serait absurde. Saint Joseph est le vicaire du Père céleste. Qu'est-ce que le vicaire? C'est celui qui tient la place, c'est-à-dire que celui qui est identique et semblable. Le vicaire du Christ, c'est le Christ. Un vicaire du Christ, hérétique, n'est pas un vicaire du Christ, puisque un hérétique ne veut pas être vicaire du Christ. Saint Joseph tient la place de Dieu le Père sur terre. Quelle dignité! Pourquoi honorons-nous Saint Joseph? Nous l'honorons, comme nous honorons la très Sainte Vierge Marie, dans un sens parce que Dieu l'a honorée. La Sainte Vierge, c'est un mystère à part entière. Saint Joseph n'y participe pas parce que c'est la Sainte Vierge. Saint Joseph a son mystère à lui. C'est celui du fait que son ministère consiste à tenir lieu de Père céleste au Fils éternel de Dieu incarné. Rien que ce titre, nous pourrions terminer le sermon là en disant « Honorons Saint Joseph ». Personne, aucun homme au monde n'a été aussi privilégié que lui d'être investi de ce ministère. Vous savez que Abraham, notre patriarche, lui-même représente dans un certain sens, et même dans un sens très certain, le Père céleste. Abraham, c'est le Père, Isaac, c'est le Fils, Jacob, c'est la démultiplication, la fécondité, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que disent les pères quand ils expliquent les trois patriarches fondamentaux de l'Église. Abraham est quelque chose, c'est le Père des croyants. Abraham est aussi, en quelque sorte, une manifestation du Père céleste. Abraham, dit notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est la messe de la Passion, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham, bien sûr, symboliquement tient lieu du Père céleste, il est associé au Père céleste, c'est vrai, d'une certaine manière. Nous ne parlons pas d'Abraham aujourd'hui, nous disons que Abraham est investi d'une ressemblance avec le Père céleste. C'est pour cela que nous le citons au canon de la messe, c'est pour cela que nous disons notre Père Abraham, etc. Abraham a vu le jour du Fils et il s'est réjoui. Mais ce Fils n'aurait pas pu être celui qui parlait aux Juifs dans l'Évangile d'aujourd'hui s'il n'avait pas été ce petit enfant, ce petit bébé donné à la très Sainte Vierge Marie, s'il n'avait pas été ce petit enfant qui a grandi, c'est extraordinaire, sous la protection de celui qui est le patriarche suprême, Abraham, qui tenait lieu de Père céleste, a vu le jour du Fils et il s'est réjoui, et le jour du Fils n'a pu exister, si j'ose dire, sans le ministère de Saint Joseph, qui est le patriarche par excellence. Combien, nous disait notre Seigneur à ses apôtres, combien de rois et de patriarches, de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, tandis que vous le voyez. Alors, mettons-nous à la place des apôtres, ils voyaient notre Seigneur, ils mangeaient avec lui, ils parlaient avec lui, comme dit l'apôtre dans une de ses épîtres. Saint Joseph a fait beaucoup plus que les apôtres, comme dit la liturgie même. Il a pris notre Seigneur dans ses bras, il l'a embrassé, il l'a tenu comme un petit bébé dans ses bras. Saint Joseph est plus grand que les apôtres. Saint Joseph est plus privilégié, même dit Bossuet, et pourtant, même plus privilégié que Saint Jean-Baptiste, qui est l'ami de l'époux, qui est le premier saint après la Sainte Vierge. Bien sûr, Saint Jean-Baptiste, c'est l'ami de notre Seigneur. Il a une place au ciel extraordinaire. Saint Joseph a tenu le petit enfant Jésus dans ses bras. Il l'a porté dans la fuite en Égypte. Et lorsque la paix fut revenue, il l'a préservé. Il a préservé son enfance pénible, comme dit Bossuet. Il a préservé sa pénible enfance de toutes les vicissitudes des enfants qui grandissent sans père. Si nous considérions simplement Saint Joseph sous cet angle-là, il y aurait de quoi le glorifier pour l'éternité. Regardez ce patriarche qui non seulement s'est réjoui par la foi, mais dont la foi a mérité de tenir dans ses bras le petit enfant Jésus, le sauveur du monde. Vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Quelle grandeur que l'honneur que Dieu a fait à Saint Joseph. Dieu a investi Saint Joseph de sa propre dignité paternelle. Bossuet nous dit, il a formé en lui un cœur de père. À strictement parler, si nous sommes si admiratifs de la paternité de Saint Joseph, c'est que Saint Joseph n'est pas vraiment le père de notre Seigneur, comme tout papa est père de ses enfants. Saint Joseph, c'est le père putatif, c'est-à-dire c'est le père adoptif de notre Seigneur. C'est celui auquel le bon Dieu a remis la garde de la Très Sainte Vierge Marie, c'est pour cela qu'il s'est marié avec elle, et la Très Sainte Vierge Marie a reçu du Saint-Esprit l'enfant Jésus, qui est le petit enfant, le petit bébé donc de la Très Sainte Vierge Marie. Et Saint Joseph n'est pas, à strictement parler, le Père de notre Seigneur comme la Sainte Vierge en est la Mère, puisque le Père de notre Seigneur, à strictement parler, c'est Dieu. Maintenant, il se trouve que cet homme, qui donc n'est pas Père selon la chair, Dieu, nous dit Bossuet, lui a façonné, lui a formé, et je pourrais vous citer tout le passage que Bossuet évoque en parlant de la façon dont Dieu a façonné le cœur de Saint Joseph, c'est magnifique, il lui a façonné un cœur de père. Lui qui n'était pas père, il est devenu père, car Dieu lui a façonné un cœur de père. Le vrai père de Jésus-Christ, dit Bossuet, ce Dieu qu'il engendre dans l'éternité, ayant choisi le divin Joseph pour servir de père au milieu du temps, à son fils unique, a fait en quelque sorte couler en son sein de Saint Joseph, quelques rayons ou quelques étincelles de cet amour infini qu'il a pour son fils. C'est ce qui lui change le cœur, c'est ce qui lui donne un amour de père. Comment est-ce que Dieu a fait de Saint Joseph le père, le vrai père de notre Seigneur par l'Esprit? Il ne lui a pas simplement donné des sentiments paternels, un peu comme s'il avait de façon artificielle excité en lui l'instinct paternel. Ça aurait été déjà un beau miracle, ça aurait été un petit miracle. Dieu le Père a fait passer dans le cœur de Saint Joseph, ce cœur très pur, car Saint Joseph était un saint, évidemment, un saint de l'Ancien Testament, il lui a fait passer, pour le rendre Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il lui a fait passer de son propre cœur, à lui, Dieu le Père, dans le cœur de Saint Joseph, quelques rayons ou quelques étincelles de cet amour infini qu'il a pour son Fils. Pourquoi Saint Joseph a été le Père, le vrai Père de notre Seigneur, c'est parce qu'il aimait notre Seigneur Jésus comme Dieu le Père aime son Fils. Alors vous allez dire, mais d'une certaine manière, ne minimisons pas. Disons que, autant qu'un homme peut aimer le Fils éternel de Dieu, Saint Joseph a aimé le Fils éternel de Dieu. Si la Sainte Vierge aime son Fils d'une manière qui est d'une certaine manière inimitable pour les chrétiens parce que c'est son vrai fils, eh bien Saint Joseph aime le fils qui lui a été donné en dépôt d'une manière aussi inimitable par les chrétiens. Nous allons voir que nous pouvons l'imiter, bien sûr. Mais la plénitude de cet amour est inaccessible aux chrétiens. Car le chrétien a un rapport avec notre Seigneur, bien sûr, qui n'est pas sans rappeler, sans dériver de celui de la Sainte Vierge ou de Saint Joseph avec notre Seigneur, mais Saint Joseph est celui qui s'est occupé physiquement, pendant un certain temps et un certain nombre d'années, de la vie temporelle de notre Seigneur. Saint Joseph était le vrai Père de notre Seigneur, car le Père Céleste avait fait couler en lui l'amour, un rayon, une étincelle de l'amour que le Père éternel a pour le Fils, il engendre toute éternité. Cette conformité de l'amour par l'amour au Père céleste mérite que Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui soit soumis, lui obéisse et se laisse commander par lui. Ceci est écrit dans un verset qui est très bref dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, et qui est fondamental. Il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Point. Quel est cet homme auquel le Fils éternel de Dieu, le Verbe éternel de Dieu qui contient tout et par lequel tout subsiste, a été soumis? Maintenant, nous comprenons un tout petit peu plus, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, son vrai Père, par la conformité à l'amour du Père éternel pour le Fils éternel. Retenez bien ça à l'esprit, car c'est important. La racine de la paternité est donc, et ça c'est vrai pour Saint Joseph et pour tous les pères, et que ce soit les pères temporels comme les pères spirituels, c'est la conformité au Père céleste qui se manifeste et qui se vérifie par l'amour de Dieu le Fils. Bien sûr, ça vous fait peut-être penser à ce que dit la loi de Moïse, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Eh bien, la loi de la paternité, c'est que tu seras conforme au Père éternel et cela se vérifiera par l'amour pour le Fils éternel. La paternité n'est pas une fonction comme une autre, ni dans la nature, ni dans la création de la grâce, dans le monde de la grâce. C'est une position de capitalité, c'est une position de vicarialité. Tout père, à quelque degré que ce soit, quelque manifestation de paternité que ce soit, est un lieutenant du Christ. Nous appelons le pape le Saint-Père. C'est en quelque sorte la figure du Père par excellence, mais c'est loin d'être la seule. Nous appelons aussi mon Père, Monsieur l'Abbé, les prêtres, et puis bien sûr nos évêques, nous les appelons nos pères, les pères du Concile, etc. Ce sont des manifestations de Père. Mais il y a aussi les pères qui sont les papas des enfants, et puis il y a les pères qui sont les pères des pères, que sont les seigneurs, les rois, l'empereur. Tout ceci, ce sont des manifestations de la paternité. Elles ne sont pas du tout égales entre elles, bien sûr, certaines sont plus dignes que d'autres, certaines sont absolument fondamentales, d'autres le sont, disons, relativement moins, même si elles sont toutes importantes. Ceci sont des manifestations de la paternité. La paternité se caractérise par la conformité au Père éternel, mais comment savoir qu'on est conforme au Père éternel? C'est quand on aime le Fils. Et nous allons voir un peu plus tard, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que cela signifie dans les détails. Mais ce n'est pas tout. Nul plus que Saint Joseph ne se trouve obéissant comme lui, nul plus que lui n'est prompt à exécuter les ordres des anges envoyés à lui par Dieu. Un ange lui dit de ne pas craindre et d'épouser Marie, de nommer son fils Jésus, et il le fait, de fuir en Égypte avec la mère et l'enfant précipitamment. Il le fait la nuit même, et enfin de revenir en Israël, et il le fait aussitôt, sans s'attarder en Égypte. Voyez-vous, mes très chers frères, la paternité, à quelque niveau qu'elle se situe, est en correspondance et en lien avec les manifestations supérieures de la paternité divine. Saint Joseph, si on lui avait dit, fort maladroitement évidemment, comme vous l'imaginez, Saint Joseph, vous êtes la manifestation terrestre pour le Christ du Père céleste. Que nous aurait-il dit? Il ne nous aurait rien dit, bien sûr, car Saint Joseph ne parle pas, comme nous allons le voir. Qu'apparaît-il du cas de Saint Joseph? Est-il quelqu'un qui est en lien directement avec le Père Céleste, un petit peu comme si c'était son ami, son confident, un peu comme Moïse qui monte sur la montagne et qui parle face à face avec Dieu? Saint Joseph est-il comme Moïse? Est-il plus que Moïse? D'une certaine manière, Saint Joseph est infiniment moins que Moïse. Et c'est là en quoi consiste toute l'assise de sa paternité et toute sa force. Saint Joseph, contrairement aux apôtres, contrairement même à la tourbe des Juifs qui ne savaient pas ce qui arrivait, n'a jamais entendu la voix du Père Céleste. Lorsque Saint Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur, le Père Céleste a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances » et le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe. Sur le mont Tabor, vous savez, Saint-Pierre propose de faire des temps, etc. Et le Père Céleste dit « Celui-ci est mon Fils unique dans qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le » Et puis, bien sûr, vous le savez, dans cet événement tout à fait extraordinaire et un peu décevant d'une certaine manière, parce que très profané par les méchants, lorsque le jour des rameaux, notre Seigneur dit glorifiez-moi, etc., et glorifiez votre nom, et que le Père dit je l'ai glorifié, je le glorifierai encore, les gens disent il y a du tonnerre, etc. C'est un peu pénible. Les gens ont entendu la voix du Père Céleste. Certains en ont été fortifiés, vivifiés, comme Saint-Pierre qui en parle dans son épître et qui dit que ce n'est pas par des fables et des affabulations qu'il nous annonce la parole, mais c'est comme ayant vu sa gloire sur la montagne avec lui. Bref, Saint-Joseph, il n'a rien de tout cela. Saint-Joseph, le Père Céleste, ne lui parle jamais. Alors, vous allez dire, mais pourtant, il lui donne des ordres. Il lui donne des ordres par ses anges. Et c'est en cela que Saint-Joseph apparaît comme un véritable père, et non pas comme un pantin du Père éternel, après tout, ce serait très glorieux d'être le pantin du Père éternel, mais il ne l'est pas. Saint Joseph apparaît en parfaite conformité avec le Père éternel, justement parce que, manifestant le Père éternel, il est soumis aux émissaires, aux anges du Père éternel. C'est quelque chose, tout est un peu paradoxal chez Saint Joseph, c'est pour cela que, nous disent les auteurs, pendant longtemps, il a été honoré, vénéré par l'Église, mais c'est un peu aux approches de la fin du monde qu'on a commencé à parler explicitement de Saint Joseph, justement parce que c'était le moment de comprendre le mystère de Saint Joseph. Non pas que ce soit un nouveau mystère, il est là depuis le début, mais il y a quelque chose d'utile pour nous, pauvres gens de la fin du monde. En quoi cette conformité, cette obéissance promptissime de Saint Joseph à l'ange, aux anges, marque-t-elle la conformité de Saint Joseph avec le Père éternel? C'est que la paternité, à quelque niveau qu'elle se situe, est en correspondance et en lien avec les manifestations supérieures de la paternité divine. Saint Joseph, si l'ange était venu de la part de Dieu, bien sûr, c'est un ange, c'est un bon ange, il est missionné par Dieu. Si Saint Joseph avait dit à l'ange, enfin quand même, pour quelque chose, je m'occupe quand même du Fils éternel de Dieu, donc Dieu pourrait quand même me parler directement. Voyez ? Et puis, après tout, donc il ne me l'a pas dit, bien entendu, après tout, la Sainte Vierge, dans un autre mystère, qui est le mystère de la maternité divine, qui est tout à fait différent de celui de la paternité divine, elle a dit à l'ange Gabriel, Saint Gabriel, comment cela se fera-t-il, etc. J'ai fait certains vœux, etc. Il ne s'agit pas maintenant de tomber dans le désordre, de faire n'importe quoi sous prétexte de dire oui. La Sainte Vierge a posé des questions. Nous savons que ce n'est pas du tout de l'impertinence, ce n'est pas de l'impiété, ce n'est pas du doute. La Sainte Vierge est prédestinée à devenir la Mère de Dieu, et la Mère de Dieu, ce n'est pas le Père de Dieu. La Sainte Vierge pose une question, et ensuite elle dit « Fiat ». Et nous l'honorons, nous admirons sa sagesse, sa piété, sa sainteté dans cette réponse à l'ange, qui n'est pas encore une fois une réponse impertinente ou de doute, mais une réponse d'amour de l'ordre. Dans le mystère de la paternité divine, si vous me permettez d'utiliser cette expression au moins juste pour ce sermon, dans le mystère de la paternité divine de Saint Joseph, Saint Joseph dit fiat immédiatement. Et même il ne dit pas fiat. Il est lui-même, par son action, la réalisation de l'ordre de Dieu. Prends la mère et l'enfant et fuit en Égypte. Que fait-il ? Il se lève, il prend la mère et l'enfant, il fuit en Égypte. Il ne dit même pas « Fiat, votre volonté, que la volonté du Père éternel, etc. » Bien sûr, il ne conteste pas en disant « Je m'occupe quand même du Fils de Dieu, le Père éternel pourra me s'adresser à moi directement et pas par des anges, il ne fait pas son amant. Hein. » Dire « Qu'est-ce que c'est ce prophète qui m'envoie un serviteur pour me dire ce que je dois faire ?» Je pensais qu'il allait dire des signes, il allait faire des signes, marmotter des choses, etc. Et puis que par la vocation du nom de Dieu, etc. Et là, il me dit d'aller me tremper dans un fleuve boueux. Saint Joseph, vous voyez, la perfection de Saint Joseph. Mais quel homme égalera Saint Joseph ? Dieu a trouvé un homme selon son cœur, un homme qui fait tout ce qu'il lui dit de faire, sans jamais contester et même différer. N'aie pas peur de prendre la Sainte Vierge, etc. Il se marie avec elle. Il ne répond même pas à l'ange. Il ne lui dit même pas « Je ferai selon votre parole ». Il l'a fait. Voilà Saint Joseph. Saint Joseph, donc, est véritablement en lien avec le Père éternel parce qu'il est soumis aux émissaires du Père éternel. Si le Christ obéit à Saint Joseph, si la Bienheureuse Vierge Marie lui est soumise et lui obéit, c'est que lui-même est obéissant aux formes de paternité qui émanent de Dieu et auxquelles Dieu l'a subordonné. Saint Joseph ne, si j'ose utiliser les paroles de Saint Paul par rapport au Christ et à sa divinité, Saint Joseph ne s'est pas fait une proie à arracher que de sa conformité avec le Père éternel. Saint Joseph, qui est plus qu'aucun saint au monde, plus qu'aucun patriarche, fût-ce notre Père Abraham, conforme et conformé au Père éternel, Saint Joseph obéit à un ange envoyé par le Père éternel. Alors on va dire, quelle humilité, etc. Oui, c'est vrai, nous en parlerons tout à l'heure. Quel mérite ! Voilà un homme qui, quoique conforme au Père éternel, obéit aux anges, cet homme-là mérite, si j'ose m'exprimer ainsi, les mots m'échappent, les mots me font défaut, cet homme mérite que la Mère de Dieu et le Fils de Dieu lui soit soumis et lui obéissent. Saint Joseph ne se contente pas de sa conformité au Père éternel. Il s'insère dans l'ordre du rayonnement total de cette paternité, en sorte en ce qu'il est lui-même soumis à ceux qui sont soumis à Dieu. Serait-il l'image du Père céleste s'il méprisait les anges de ce même Père, c'est-à-dire les envoyés par lesquels, ange signifie envoyé, hein, c'est-à-dire les envoyés par lesquels seul le Père céleste lui fait connaître sa volonté. Imaginez un prêtre, prenons un peu les prêtres comme exemple, imaginons un prêtre ou n'importe un prêtre ou même un évêque, hein, qui dirait je suis j'agis une persona Christi. Je suis un alter Christus, effectivement, bon, vous savez, bon, tout le monde l'admet. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être soumis à un évêque pour pouvoir opérer ? Après tout, est-ce que je ne suis pas une des manifestations du Christ, une des manifestations sacerdotales du Christ ? Il y a à la fois quelque chose de vrai et quelque chose de faux dans son discours. Bien sûr, personne ne remet en question qu'il est un Jésus, un Christ. Par l'ordre qu'il a reçu. Mais s'il l'était vraiment, il serait soumis à ceux qui sont, eux aussi, à leur niveau et supérieurs à lui, des Jésus-Christ, vous voyez, les évêques, etc. Vous voyez, un père de famille qui dirait « Moi, je suis directement lié à Dieu, donc je suis un lieutenant. » Il a raison, mais directement lié à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi un père de famille qui dirait à ses enfants, par exemple, ne serait-ce que du point de vue simplement temporel, nous serions dans l'ordre normal des choses, il y aurait un roi. Ah ben le roi, après tout, moi je suis un lieutenant du Christ. Je suis un lieutenant et je suis une manifestation du Père éternel. Je n'ai pas à être soumis au roi. Il se tromperait pour lui, mais il se tromperait aussi dans l'éducation qu'il donnerait à ses fils. C'est-à-dire que pour lui, disons qu'il justifie cette attitude en disant « le roi est injuste, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, etc. » Et après tout, si le roi est une manifestation de la paternité, ben moi aussi. Hein, et d'une certaine manière, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est une... Il est en petit ce que le roi est en grand. Bon. Que dira-t-il à ses fils ? Le roi... Je le conteste, je ne lui obéis pas, je n'obéis qu'à Dieu. Affirmera-t-il sa paternité vis-à-vis de ses fils ? Ses fils peut-être aimeront leur papa, mais quand ils deviendront eux-mêmes des, en l'âge de devenir des pères, ayant été élevés dans le mépris du père qu'est le roi, ils ne seront pas capables de reproduire l'exemple de la paternité que leur père, dont leur père était investi en tant que père, hein, en tant que père légitime. Et que vont-ils faire ? Ben, ils vont faire des bêtises. C'est un peu le drame de la société moderne. Souvenez-vous, Balzac qui disait en coupant la tête du roi, c'est à tous les pères de famille qu'on a coupé la tête. Bon, effectivement, il faut bien comprendre, mais c'est tout à fait, d'une certaine manière, c'est vrai. D'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a plus de roi, donc il n'y a plus de père ? Non, car la royauté et la paternité sont deux manifestations de la paternité qui sont différentes, indépendantes, si l'on peut dire, autonomes, chacune selon sa logique propre, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si nous vivons en République, ce père dont nous venons de parler, maintenant nous le prenons en bon exemple, même si nous vivons en République et qu'il n'y a pas de père royal à honorer, nous l'honorons, ce père, il l'honore potentiellement. Il parle à ses enfants de l'ordre des choses. Il n'est pas simplement tout le temps en train de dire le président de la République, c'est pas un roi, c'est un faux père, etc. Le président de la République n'est rien pour nous. Donc, nous n'en parlons pas tellement, nous en parlons de temps en temps, bien sûr, parce que nous avons les yeux en face des trous, mais nous n'en parlons pas tellement. Nous comportons, ce père se comporte, je dis nous, parce que nous adhérons bien sûr à ce bon exemple, ce père se comporte d'une façon normale. Qu'il y ait le roi ou pas. Si le roi était là, il lui serait soumis, et il serait un père, et à strictement parler, sa paternité ne dépendrait pas de la paternité du roi, mais elle serait renforcée par la soumission du père au père commun qu'est le roi. Les fils grandissent dans le respect de la paternité, car il y a un respect vis-à-vis du père, qui est lui-même ordonné. Si mon père est un régicide, comment va-t-il pouvoir me... Je parle pour un enfant de républicain, par exemple. Comment mon père va-t-il pouvoir m'inculquer le respect paternel ? Mon père me dit que mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était un australopithèque dont l'arrière-grand-père était un babouin, etc., descendant des arbres. La paternité en souffre un peu. Et puis après, évidemment, quand je manque de respect à mon père va dire « respecte-moi, je suis ton père ». Tu es mon père, mais dans un milliard d'années, tu apparaîtras pour ce que tu es, un vieux singe, en réalité. Vous voyez ? Donc, il ne s'agit pas ici d'opposer ou de séparer les manifestations de la paternité. Nous voyons que les manifestations de la paternité doivent être toutes ordonnées les unes aux autres, même si elles sont indépendantes les unes des autres, bien entendu, de telle sorte que l'influx divin puisse véritablement se manifester. Vous voyez ? Il faut être soumis à l'ordre des choses, à la hiérarchie, de telle sorte que nous puissions, chacun à notre niveau, être renforcés. Si nous nous sortons de cette hiérarchie qui est, parce qu'elle est indestructible, heureusement, personne ne découvre le Christ, personne ne ruine l'ordre des choses, bien sûr, plus les transhumanistes, etc., personne ne peut vraiment ruiner l'ordre des choses, alors il faut insérer dans cet ordre permanent et pérenne des choses, de telle sorte à pouvoir faire son devoir là où il faut. Si Saint-Joseph est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il est l'image du Père Céleste, soumis qu'il est aux intermédiaires de celui-ci, commis à la charge d'enseigner, de guider les fidèles. Pour le cas de Saint-Joseph, évidemment, Saint-Joseph était bien sûr soumis aux prêtres, etc. Je parle ici des anges qui représentent les évêques, on les appelle des anges ou les prêtres, etc. On les appelle des anges aussi à certains moments. C'est l'ordre des choses. Donc vous voyez, Saint-Joseph, ce n'est pas du tout un paradoxe que de dire qu'il est la plus glorieuse manifestation du Père céleste sur terre, pour son fils, le Fils est Dieu. Et en même temps, qu'il est, de tout l'Évangile, la seule personne, si l'on peut dire, si vous me permettez d'exagérer un petit peu, la seule personne auquel le Père Céleste n'a jamais parlé. Le Père Céleste n'a pas besoin de parler à Saint Joseph pour fonder Saint Joseph dans son état. Saint Joseph est soumis à l'ordre qui émane du Père Céleste et il est la parfaite image du Père Céleste. Voilà pourquoi Saint Joseph, nous en arrivons à notre deuxième point, Saint Joseph est l'image du Père catholique. Saint Joseph, bien sûr, a beaucoup souffert, l'image de Saint Joseph a beaucoup souffert des mécréants, des moqueurs, et je n'en parlerai pas de peur de ternir ce sermon à la gloire de Saint Joseph, je l'espère, par des considérations pénibles. Saint Joseph, vous savez, on s'est beaucoup moqué de lui, vous comprenez pourquoi. Saint Joseph, néanmoins, est véritablement l'image du Père catholique. Il est leur modèle, et puis il est aussi l'image. Nous avons vu que Saint Joseph est le vrai Père de notre Seigneur Jésus-Christ par l'amour que le Père éternel a versé en lui et qui a formé en lui un cœur paternel. Comment cette paternité, maintenant, se manifeste-t-elle? Nous avons vu Saint Joseph en tant que Père, intrinsèquement Père. Maintenant, Saint Joseph dans le tableau de la paternité. Comment cette paternité de Saint Joseph se manifeste-t-elle? Bossuet nous dit quelque chose de très intéressant, et c'est d'ailleurs repris par plusieurs autres prédicateurs. La paternité de Saint Joseph se manifeste par des actes. Des actes, dit Bossuet, et non de vaines paroles. Saint Joseph ne parle pas. Dans tout l'Évangile, Saint Joseph ne parle pas. Alors on va dire, c'est la facilité de Saint Joseph, et puis certains pourraient dire des choses, la Sainte Vierge parle, Saint Joseph ne parle pas. Attention, 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 tout est paradoxal dans la Sainte Famille. N'allons, ne nous aventurons pas sur ces voies-là, et je sais, mes très chers frères, que vous n'y allez pas. Saint Joseph ne parle pas, certes. Saint Joseph agit avec la promptitude d'un ange. Nous avons dit qu'il était soumis aux anges, mais il est dit que les anges de Dieu sont des esprits qui obéissent avec rapidité à Dieu. Saint Joseph, soumis aux anges, est d'une certaine manière lui-même un ange. Vous voyez comment la soumission à l'ordre des choses renforce et même fait participer à la puissance des degrés supérieurs. Comment cette paternité se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par des actes et non par des paroles. Ce qui est frappant chez Saint Joseph, relève Bossuet, c'est qu'il est totalement dépourvu et dépourvu, dépris de ses propres intérêts. Il n'a aucune passion pour sa volonté propre. Tout ce que Dieu veut qu'il fasse, il le fait.